Les séminaires du Collège de France.
On va pouvoir donc commencer. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Encheri, qui est ingénieur de recherche en calcul scientifique à l'IFP Énergie Nouvelle, dans la direction Sciences et Technologies du Numérique. Ses travaux portent sur les techniques de discrétisation des équations aux dérivées partielles et la réduction de modèles avec diverses applications, notamment en milieu poreux. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui avec la présentation accélération de simulation d'écoulement en milieu poreux par des méthodes de base réduite. Il est également responsable d'un projet de recherche dédié au supercalculateur à IFPEN et il est aussi dans le comité scientifique avec Martin Voralik du laboratoire commun IFPEN sur la convergence HPC-IA-HPDA pour la transition énergétique.
Tout à fait.
Voilà, donc à vous la parole.
Merci pour cette introduction. Et puis, je profite de ce début d'exposé pour vous remercier également pour votre invitation à participer à ce cycle de séminaires qui nous permet de partager nos expériences, là notamment sur les bases réduites, et puis aussi d'exposer quelques cas un peu difficiles qui résistent encore à la réduction. Donc, ce matin, je vais effectivement vous parler de ce type d'application, enfin de la simulation des écoulements en milieu poreux. Donc, ce sont des travaux qui sont issus principalement de deux thèses, hein, les thèses de Riyad Sanchez et Jana Tarini, qui ont été soutenues. Et nous avons actuellement une troisième thèse qui a débuté il y a quelques mois. Donc c'est la thèse de Baptiste Gilberi qui poursuit en fait les travaux notamment faits par Jana précédemment. Alors ces doctorants donc sont encadrés par Sébastien Boyabal, donc qui est professeur à l'École nationale des ponts et chaussées, membre de l'équipe INRIA Materials, et puis ces doctorants étaient aussi encadrés par Quang Nguyen et moi-même, qui sommes donc ingénieurs de recherche à l'IFP Énergie Nouvelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, je voudrais dire un petit peu quelques mots sur le contexte de ces travaux et, excusez-moi, notamment sur nos activités de RI à l'IFPEN. Donc, l'IFPEN, donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les activités concernent les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Donc, comme c'est indiqué sur cette slide, en fait, nos activités de recherche visent à gagner en efficacité énergétique, à réduire les émissions de CO2 et de polluants, à améliorer l'empreinte environnementale de l'industrie et des transports et à répondre à la demande mondiale en mobilité, énergie et produits pour la chimie. Alors, dans ces trois domaines, donc vous avez ici un aperçu hein, de toutes nos activités qui sont très variées. Et comme vous le présentez, en fait, la simulation numérique est bien présente dans bon nombre de ces domaines. Et pour beaucoup de ces domaines, en fait, les calculs peuvent être relativement coûteux, notamment les simulateurs sont utilisés dans le cadre d'études paramétriques, de type analyse de sensibilité, quantification des incertitudes ou optimisation de procédés. Donc les techniques de réduction de modèles sont bien sûr utilisées hein, à l'IFPEN au sens large. Mais moi ce matin, en fait, mon objectif ce n'est pas de faire un panorama complet, c'est en fait je vais vous parler surtout du stockage du CO2 dans le sous-sol et d'application des techniques de base réduite sur des modèles qui découlent de ce type de modélisation. Alors, en guise d'introduction, je pense qu'il est un peu nécessaire de rappeler ce que c'est que le stockage souterrain du CO2 pour notamment expliquer un petit peu les mécanismes physiques qui sont à l'œuvre, en œuvre. Et après, expliquer aussi un petit peu les méthodes numériques que l'on utilise. Donc, le stockage souterrain du CO2, en fait, il est envisagé pour des industries qui sont particulièrement émettrices, donc en CO2. Le but, c'est en fait de capter leurs émissions à la source et puis ensuite d'acheminer ce CO2 via des gazoducs ou par bateau jusqu'à un site de stockage. À l'IFPEN, comme site de stockage, on considère principalement un stockage en aquifère salin profond. Donc ce sont des aquifères qui sont, vous voyez ici, à peu près à 1000-2000 mètres de profondeur, qui sont initialement saturés en eau, mais à une eau qui n'est pas propre à la consommation. C'est une saumure, donc de l'eau salée. Voilà. Et l'avantage de ces structures géologiques, c'est qu'elles, ce sont des réservoirs de grande taille, avec des capacités de stockage importantes, qui permettraient donc en fait d'y stocker le CO2. Alors, le stockage du CO2 donc passe par une injection via un puits, et une fois dans une roche poreuse, initialement saturée en eau, en fait, le CO2, dont la masse volumique va être plus légère que celle de l'eau en place, en fait, va migrer par gravité. Et en fait, le premier mécanisme de stockage qui va être à l'œuvre, c'est en fait un piégeage sous des roches de couverture, qui sont ici indiquées en vert, où le CO2 va s'accumuler. Donc, il y a une forme de piégeage structural, un premier mécanisme. Et puis, ce CO2, en fait, il ne reste pas forcément que dans une phase gazeuse. En fait, il peut se dissoudre dans l'eau, donc ce qui est indiqué ici. Et cette eau enrichie en CO2 va devenir plus lourde et vous allez avoir des instabilités gravitaires. En fait, cette eau riche en CO2 tombe par gravité. Donc, c'est un autre mécanisme de stockage. Et puis, il y en a un autre qui est que, en fait, cette eau enrichie en CO2 peut réagir avec la roche. Et sur des temps relativement longs, en fait, ce CO2 peut minéraliser. Voilà. Donc, c'est le troisième mécanisme qui contribue au stockage du CO2. Voilà. Donc, le but de nos calculateurs, c'est de représenter cette physique qui, vous l'avez compris, est relativement complexe. D'autant plus qu'il y a aussi, en plus de l'écoulement, des effets géomécaniques. Puisque lorsque, en fait, vous injectez le CO2 via le puits, vous avez un incrément de pression qui se crée avec des gradients relativement un peu plus importants au niveau de l'injecteur. Et ces incréments de pression, bah, en fait, ils vont se propager et même bien au-delà de la zone de stockage où se trouve le CO2. Et en fait, ces deltas de pression vont, d'un point de vue géomécanique, créer des déformations. Et le but aussi d'une simulation, c'est de vérifier que ces incréments de pression, les déformations, ne vont pas commencer à fissurer la roche de couverture ou à induire des déplacements au niveau de failles, modifier la perméabilité de la faille et finalement déstabiliser l'équilibre en place. Donc, pour simuler ce type de procédé, donc nous développons un code de calcul à l'IFPEN qui s'appelle GeoXim. Donc, ce calculateur, c'est un calculateur parallèle basé sur la plateforme, le framework HPC Arcane que nous co-développons avec le CEA. Donc, ses caractéristiques principales sont que, en fait, c'est un calculateur qui permet donc de simuler des écoulements multiphasiques, compositionnels, thermiques. Et comme je l'ai indiqué avant, bah, il y a la nécessité aussi de prendre en compte les interactions fluide-roche pour notamment simuler des mécanismes de dissolution, précipitation de minéraux et aussi des déformations mécaniques. Alors, ces déformations mécaniques en fait peuvent être calculées soit via un module interne qui permet à l'aide d'éléments virtuels en fait de faire des calculs des déformations directement sur la grille d'écoulement, ou alors on a aussi l'option de faire un couplage avec externe avec le code Aster. Donc l'usage de ce calculateur hein, donc c'est de simuler des problématiques opérationnelles, hein, des problématiques de stockage. Mais c'est aussi, quelque part, un espèce d'intégrateur de différentes physiques, un laboratoire qui permet, en fait, de comprendre tous les phénomènes physiques à l'œuvre et puis aussi les couplages entre eux. Alors, je vais donner quelques exemples dans ce qui suit de calculs réalisés un petit peu sur différentes échelles. Alors, on va ici considérer un premier exemple qui est un aquifère synthétique. Hein. Ce n'est pas un cas réel, mais la géométrie, en tout cas, reste relativement réaliste. Alors, ça vous donne déjà en fait une idée donc de la taille des domaines. Hein. C'est un aquifère, ça peut être plusieurs dizaines, voire des centaines de kilomètres. Ici, donc, vous voyez donc ce domaine oméga en espace, et vous voyez que le maillage est construit de façon en fait à suivre les couches géologiques. Hein, donc, c'est un maillage relativement déformé. Et bon, là, la géologie est relativement gentille, je dirais, mais vous pouvez avoir des phénomènes d'érosion de couches qui fait que bah, vos hexaèdres, ils peuvent être des fois un peu dégénérés. Donc, ce qui peut rendre notamment des calculs avec des éléments finis un peu compliqués. Et là, ce que vous voyez aussi sur ce maillage, donc, c'est que nous l'avons habillé en propriété. Et une propriété importante qu'on va retrouver dans cet exposé, c'est la perméabilité. Hein, donc la perméabilité, c'est cette propriété qui permet en fait de caractériser la facilité pour les fluides à s'écouler au travers du milieu poreux. Donc l'échelle classique, c'est le Darcy, qui vaut 10-12 mètres carrés. Donc là, c'est en mètres carrés. Et donc là, vous avez l'ordre de grandeur. On est à 0,1 Darcy dans la zone mauve, là, qui est la zone de stockage. Parce qu'en fait, l'injecteur, vous allez le voir, il est situé plus au centre. Et puis, vous avez la roche de couverture qui la surplombe, qui, elle, a des perméabilités beaucoup plus faibles. Voilà. En pratique, bien sûr, ces perméabilités sont, on est dans le sous-sol, sont pas forcément très bien connues. Donc, eh bien, vous le devinez, en fait, on va être amené à faire varier ce paramètre sur une certaine plage de valeurs pour générer différentes solutions du système. Alors, je voudrais faire un petit zoom.
La géométrie, elle est bien connue.
Il peut y aussi avoir des incertitudes. Oui, tout à fait. Ouais. Sur les horizons, notamment. Ouais. Voilà, donc là, on fait un zoom sur l'intérieur. Et vous voyez que bah, le maillage il était assez grossier initialement et que bah, on a fait un raffinement local de maillage pour essayer ici de capter en fait la plume de CO2. Alors il faut imaginer que vous avez ici des petites mailles qui contiennent des perforations et là c'est notre terme source dans nos équations par lequel en fait va être en fait injecté notre fluide. Et donc, au fur et à mesure de l'injection, vous avez cette plume de CO2 qui se développe, qui monte par gravité et qui va se coincer sous la couche ici. Donc, vous voyez un petit peu le type de maillage que l'on est amené à traiter. Hein. Donc, il y a eu un raffinement local de maillage avec une mise en conformité, ce qui fait qu'en fait, on a un maillage complètement déstructuré, polyédrique, alors sur lesquels on utilise des volumes finis pour faire l'écoulement. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éléments virtuels pour faire la mécanique. Alors là, j'ai extrait l'aquifère. C'était pour vous montrer un petit peu les différentes échelles. Ici, vous voyez en fait l'incrément en pression qui est avec des gradients relativement forts autour de la zone d'injection. Mais vous voyez que cette pression, eh bien, elle diffuse. Voilà, donc il y a des légers incréments de pression, y compris à des échelles d'espace plus éloignées. Et ce qui va être intéressant, bah, ça va être de voir l'effet, par exemple, peut-être sur cette faille de ces incréments de pression.
Alors, l'aquifère, là, c'est de l'eau, c'est ça ? Enfin, c'est
alors, salé. Oui, c'est de l'eau salée. Alors là, ce qui est en bleu, hein, c'est les valeurs du champ de pression. Donc, qui sont maximales autour de l'injecteur, avec des forts gradients, et puis qui diffusent un petit peu partout, mais il faut imaginer que c'est en fait des échelles de plusieurs dizaines de kilomètres.
D'accord.
Voilà.
Mais cette couche, c'est une couche d'eau salée.
C'est une oui. En fait, c'est une roche poreuse qui est saturée en eau salée initialement et puis qui va contenir soit du CO2 gazeux, soit le CO2 qui va se dissoudre dans l'eau. Voilà. Alors, il faut voir qu'à cette échelle de maille, en fait, le réseau de pores n'est bien sûr pas représenté finement. Ce sont des quantités moyennées, bien sûr. Alors là, je présente à une échelle plus petite les résultats qu'on a obtenus sur un benchmark qui a été proposé entre 2023 et 2025. C'est le benchmark SPE11. En fait, il contient trois cas tests, A, B, C. Et en fait, ces cas tests ont été construits pour que les différents centres de recherche qui développent des outils de simulation dans ce domaine, en fait, et des jeux de données un peu communs pour confronter leurs résultats, leur simulation. Donc le A, c'est plutôt un cas test qui correspond à une application plus, je dirais, laboratoire. Le B est une mise à l'échelle de ce cas A qui reste 2D. Alors, on a des résultats sur les trois cas tests. Hein, le C est un cas 3D. Je vous présente le cas B parce qu'en 2D, c'est plus facile de voir les choses. Donc là, ici... Alors, j'ai retiré la souris, là. Hop. Vous avez deux puits injecteurs qui sont ici. Vous avez ici la géologie, donc les différents faciès. Hein, les faciès, ce sont les types de roches. Et alors, parmi les faciès les plus imperméables, vous avez le faciès 7, par exemple, et le faciès 1, qui surplombe notamment le puits 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce benchmark ? Eh bien, on commence une injection via le puits 1, à T égale à 0 pendant 50 ans et au bout de 25 ans on entame une deuxième injection sur 25 ans au niveau du puits 2. Donc il y a la simulation de la phase d'injection et puis après on va observer la migration du CO2, éventuellement sa dissolution dans l'eau, et ça après la simulation va durer 1000 ans. Voilà, donc on a des échelles de temps relativement différentes. Donc là je vous montre une vidéo qui a été réalisée par les organisateurs suite à la synthèse des résultats et qui vous montre les résultats de Geoxim. Et vous allez voir notamment se développer les instabilités gravitaires dont je parlais en introduction. Voilà, donc en fait, le CO2 est injecté à peu près dans ces zones-là. Et en fait, alors il est injecté à une température de 10 degrés, donc au départ, il y a une partie un petit peu qui va se dissoudre, qui va tomber, mais en fait, très vite, ce CO2 va se réchauffer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, sa masse volumique, il va devenir plus légère, il va monter, et puis au fur et à mesure qu'il rencontre de l'eau, en fait, il y a un mécanisme de drainage, eh bien, il va saturer cette eau en CO2, et puis cette eau enrichie, eh bien, au final retombe, d'où le mécanisme, ces instabilités que vous observez ici. Voilà, alors j'ai fait cette introduction un petit peu pour vous illustrer les différents mécanismes qui sont à l'œuvre pour ce stockage du CO2, et ce qu'on a vu, c'est que en fait, pour ce type de simulation interviennent plusieurs échelles de temps et d'espace. Il y a le temps de la phase d'injection et puis après il y a le temps du monitoring qui peut être là sur des centaines d'années. Et puis il y a aussi plusieurs échelles d'espace puisqu'il y a effectivement tous des phénomènes physiques, des écoulements polyphasiques dans une zone pas très éloignée du puits injecteur, au niveau de la zone de panache de CO2. Et puis après il y a aussi les effets induits par la pression qui eux peuvent être sur des échelles d'espace beaucoup plus importantes. Donc, en fait, l'objet des travaux que je vais vous présenter dans ce qui suit, bien, c'était en fait d'évaluer, le potentiel des techniques de base réduite pour voir si, en fait, on peut réduire l'effort de calcul dans des zones où les écoulements et les déformations mécaniques ne sont pas trop complexes, et pourquoi pas de s'affranchir de tout ou partie du maillage. Alors, en fait, Dans ce qui suit, je vais vous montrer les résultats obtenus en réduction de modèles sur des modèles simplifiés, mais qu'on retrouve en fait dans ce type de modélisation. Alors, je vais commencer avec un écoulement monophasique compressible. Donc là, ici, pardon, excusez-moi, ça défile un peu vite. Dans ce problème, l'inconnu, c'est la pression du fluide, qui est solution donc, de cette EDP, où phi, en fait, donc, c'est la porosité du milieu, donc qui est en fait une variable d'espace, hein, elle change selon le type de roche. C, c'est la compressibilité du fluide. V, c'est la vitesse de Darcy, donc qui est définie comme ceci, donc, où lambda bar, en fait, c'est le tenseur de perméabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui est un tenseur symétrique. Mu, c'est la viscosité du fluide. Et rho et g, bon, bah, en fait, c'est, donc rho, g, c'est la, rho, c'est la masse volumique, et g, c'est le vecteur gravité. Voilà. Q, c'est un terme source que j'expliciterai un petit peu tout à l'heure. Il est important puisqu'en fait, c'est là que est contenue la discrétisation de nos puits. Voilà. Et donc, c'est via ce terme que, on, quelque part, se passe le mécanisme d'injection. Voilà, donc on veut résoudre cette EDP, on se donne une condition initiale, éventuellement des conditions Dirichlet, des conditions de flux nul sur une partie du bord. Et puis, vous allez voir dans ce qui suit, donc on va déjà essayer de faire une réduction du champ de pression complet. Et puis, en fait, on se voit que dans la simulation du stockage du CO2, eh ben, on n'est pas... Le champ de pression, il peut être très étendu. Et puis, mais on est intéressé par qu'est-ce qui se passe dans certaines zones. Donc ici, pour cette étude, on se donne une forme linéaire de la pression, S de P, et on va aussi essayer de réduire, de construire un modèle réduit de cette forme linéaire. Alors, je vais expliquer un petit peu ici notre système haute fidélité. Donc, je vais passer un petit peu de temps pour expliquer les méthodes numériques qu'il y a derrière. Comme je l'ai dit, en fait, pour discrétiser cette équation, on utilise des volumes finis avec des inconnus centrés aux mailles. Donc, le principe des volumes finis, hein, donc on intègre cette équation sur chacune des mailles du maillage. Donc là, en l'occurrence, elles sont dotées K. Et puis, on considère des faces sigma autour de cette maille. Et notamment, donc si on intègre l'équation ici sur la maille K, eh bien, ce qui va nous intéresser, c'est notamment les termes de gradient de pression. Donc si on intègre le gradient de pression sur une maille K, ben, on utilise donc, la formule de la divergence. On le transforme une intégrale sur les faces environnantes. Et du coup, on doit trouver, construire une approximation de ce flux. Voilà, sur la face sigma. Donc là, on va utiliser des volumes finis. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que ici, bah, le tenseur de perméabilité, il est symétrique, donc je peux le passer là. Et en général, dans les méthodes volumes finies, on utilise pour les gradients des formules de type un peu différence finie, où on va calculer la différence au centre de la maille et au centre de la différence entre la valeur au centre de la maille et au centre de la face. Voilà. Et là, on doit écrire ce gradient en fonction de cette direction lambda k n k, qui est en fait ce qu'on appelle une conormale. Alors, sur les maillages que vous avez vus, cette conormale, elle n'est pas forcément alignée avec les centres, les segments qui relient les centres des mailles. Donc en fait, on considère les vecteurs constitués qui relient les centres des mailles et les centres des faces, tout autour de la maille K. Et en fait, il faut trouver une décomposition de cette conormale via des coefficients alpha K, sigma, sigma prime, pour finalement, au final, réécrire ce gradient de cette façon-là. Donc PK ici, c'est mon inconnu au centre de la maille, et I sigma prime, c'est une approximation de la trace, de la pression sur la face, Et en fait, c'est une moyenne des valeurs aux mailles qui environnent sigma prime. Donc je ne détaille pas l'expression, mais ce que je veux indiquer déjà ici, c'est que pour ce terme de Strass, notamment, il fait intervenir notre tenseur de perméabilité et de façon non linéaire. Voilà, donc ici, à l'issue de cette première étape, on a des flux autour de la maille K. Bon, mais en fait, il nous faut des flux conservatifs. Donc, l'idée, c'est finalement de prendre une combinaison convexe des flux linéaires obtenus dans la maille K et dans la maille L et de les combiner de cette façon-là pour obtenir un flux pour la face sigma. Donc là, j'ai noté FK sigma parce que c'est le flux selon la normale sortante AK. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de choisir ces poids. Ces poids peuvent être eux-mêmes des solutions, des fonctions non linéaires de la pression. Donc, c'est le cas dans Geoxime. On a des schémas de ce type qui nous permettent d'avoir des bonnes propriétés sur la pression, notamment, par exemple, la positivité des pressions. Et ici, on va considérer un schéma multipoint linéaire où on prend simplement μk égale μl égale 1/2. Donc ça, c'est pour la discrétisation volume fini en espace. Maintenant, je voudrais dire quelques mots aussi sur le terme source que nous avons vu dans l'équation. Donc, lorsqu'il est intégré, en fait, dans nos codes, il prend cette forme. En fait, il est défini de manière discrète au moyen d'un ce qu'on appelle un indice de puits, WIK, qui s'appelle en fait l'indice de Pissmann. Donc c'est un modèle qui est très utilisé en simulation de réservoir et en fait qui est non nul uniquement dans les mailles qui sont traversées par un puits. Et puis ici, vous retrouvez, comme pour la discrétisation des flux, des différences de pression, les différences de potentiel au niveau du terme de gravité. Mais là, effectivement, ces différences sont écrites entre le centre de la maille et une condition aux limites, qui est la condition de pression au fond du puits, voilà, qui est définie à une certaine cote ZBH. Là aussi, je veux attirer votre attention sur le fait que dans ce coefficient, on dépend non linéairement de la perméabilité. Voilà. Donc, j'ai voulu un petit peu expliquer cette discrétisation au volume fini pour finalement donner un petit peu une idée de ce qu'il y avait dans le système qu'au final on a à résoudre. Donc, en temps, on utilise une méthode de l'air implicite et au final, on obtient un système de ce type. Donc, où M, donc, c'est une matrice diagonale. A, c'est la matrice qui en fait correspond à la discrétisation de notre opérateur de diffusion. Donc, ce sont potentiellement des matrices qui dépendent d'un paramètre xi. Donc, c'est le paramètre avec lequel on va faire varier dans la suite. Donc, qui sont définis dans la grande dimension calligraphique n. Et la particularité ici sur ce problème, c'est que A n'est pas symétrique à cause du schéma que j'ai présenté tout à l'heure, et notamment de son stencil qui dépend en fait de la décomposition de la conormale. Donc B aussi peuvent dépendre des paramètres, et y compris le vecteur L qui est utilisé pour évaluer notre quantité d'intérêt.
On a éliminé la vitesse là du coup.
Alors oui, en fait on fait une effectivement on ne fait pas, vous allez voir, on ne fait pas de réduction directement sur le champ de vitesse. Donc pardon, excusez-moi, j'ai un problème, ça saute un peu vite. Ok. Donc là en fait pour réduire ce problème, ce système, ces systèmes linéaires, cette collection de systèmes linéaires en pression qui sont définis sur la grande dimension, là on va utiliser une approximation base réduite. Donc on suppose qu'on a une matrice contenant nos vecteurs de base. On suppose que, bien évidemment, cette dimension est très différente et très inférieure à la dimension du maillage. Donc ici, grand N correspond à mon nombre de mailles, puisqu'on est on est sur des volumes finis, et on recherche une approximation base réduite sous cette forme. Voilà, donc en fait les coordonnées dans ma base, ici c'est p tilde. Donc, en utilisant les techniques qui ont été présentées dans ce cours, en fait, eh bien, on montre que Pétilde est finalement la solution de ce système obtenu par projection de Galerkin. Et en fait, après, il va falloir en fait construire cette base. Et pour cela, on va utiliser des indicateurs, des estimateurs de l'erreur. Alors l'erreur donc est rappelée ici, hein, donc entre la solution haute fidélité et la solution base réduite, et elle est écrite selon une norme d'énergie discrète qui est précisée ici, qui dépend bien sûr de mes opérateurs précédents. Mais ici, vous remarquez que en fait, ce n'est pas A, mais A-SIM qui est utilisé. Et chose importante, ce qu'on voulait, c'était que, en fait, pour cette mesure de l'erreur, en fait, on est la même au niveau de l'algorithme Glouton pour tous les paramètres visités. Donc, en fait, on se fixe une valeur de paramètre pour définir cette norme discrète. Voilà. Donc, excusez-moi, en fait, à chaque fois, ça... Donc, là, la méthodologie est très classique. Hein. On suppose qu'on a un estimateur a posteriori de cette erreur. Et on applique, en fait, la méthodologie qui a été exposée dans ce cours. Donc, on choisit un premier paramètre au hasard. Et puis, on commence par générer toutes les solutions à tous les pas de temps. On fait une POD sur cette première collection de solutions en temps. On orthonormalise les vecteurs obtenus. Et puis après, on poursuit éventuellement 2-3 itérations tant que notre erreur n'a pas suffisamment diminué. Et aux itérations suivantes, eh bien, la POD est effectuée sur l'erreur de projection courante prise à chaque pas de temps. Alors, ce qui est intéressant pour ce type de problème, c'est que, en fait, on est capable d'avoir une efficacité complète des calculs et une certification via l'estimateur. Donc, pour ça, on utilise le IEM qui a été présenté. Donc, on applique le IEM sur A, B et L. Et encore une fois, on n'a pas naturellement une décomposition affine avec cette discrétisation du fait que, on va faire des tests après, je vais vous montrer des résultats sur la perméabilité parce que, encore une fois, notre discrétisation n'est pas linéaire en la perméabilité. Et pour construire l'estimateur a posteriori, eh bien, on utilise des arguments classiques. Hein, donc, on évalue la norme duale du résidu qui peut être évaluée très efficacement grâce à l'EIM. Et pour approcher rapidement nos constantes de coercivité, eh bien, on utilise la méthode des contraintes successives. Et alors, je vous montre un choix possible ici d'estimateur. En fait, il faut voir que, en pratique, on en teste toujours différents. En fait. C'est encore un travail en cours. Alors, je vous montre un résultat sur un bloc. Donc, composé de 2 types de roches, donc ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu en introduction. Donc c'est un anticlinal où nous avons un injecteur ici et en fait on va ouvrir, on va commencer à injecter dans ce milieu poreux à T au début de la simulation en imposant une pression de fond au niveau du puits. Et le but de cet exercice, c'est finalement de faire varier la perméabilité dans la zone perméable et aussi dans la roche de couverture. Donc vous avez ici les variations pour la roche perméable entre 10-2 et 1 Darcy, et ici entre pour les roches de couverture entre 10-2 et 1 millidarcy. Donc vous voyez ici la convergence de l'algorithme Glouton qui est piloté par un estimateur d'erreur a posteriori, et vous voyez en parallèle l'évolution de l'erreur. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que effectivement, à peu près pour une taille de base un peu plus supérieure à 100, on a une décroissance de l'erreur de plusieurs ordres de grandeur. Donc le problème se réduit très bien. C'est revérifié avec un nouvel échantillon où on rejoue l'algorithme greedy en ajoutant les éléments de la base, et on voit une décroissance similaire de l'erreur. Alors, l'élément que vous avez certainement noté, en fait, c'est finalement le manque d'efficacité en fait, de cet estimateur qui, ici, surestime quand même beaucoup l'erreur réelle. Et cela, en fait, est lié à notre discrétisation de l'erreur implicite. En fait, quand vous sommez toutes les contributions en temps de l'erreur, vous n'obtenez pas directement l'expression de la norme de l'erreur telle que je l'ai présentée au début, notre norme d'énergie discrète. En fait, il va falloir faire des choix, des minorations, pour pouvoir se ramener à cette norme d'énergie, et au final, cela sera traduit par un peu une perte d'efficacité. Mais enfin, néanmoins, il permet de cet estimateur de bien guider l'algorithme Glouton. Alors là, on a fait une réduction du champ de pression complet. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est plutôt avoir une approximation réduite de notre quantité d'intérêt S. Et pour ça, on va introduire donc le problème dual du précédent. Alors pour ça, en fait, il faut remarquer que notre quantité réduite obtenue avec la carte de pression haute fidélité, si en fait on introduit la différence entre les deux solutions en pression, finalement, bon, après quelques petites lignes de calcul, en fait on remarque que ça serait écrit sous cette forme, en une somme donc sur les pas de temps des résidus du problème primal avec la solution en fait du problème du dual du problème précédent. Donc qui là est écrit en condition finale, où en fait la condition finale c'est mcn égale moins l, et puis on remonte en fait les pas de temps, cette fois en résolvant le système m sur delta t plus a transposé. Alors bien sûr, cette résolution est coûteuse, on n'a pas envie de le faire, donc là aussi on utilise une approximation base réduite. Donc là, on va utiliser les mêmes arguments que précédemment. Donc on suppose à ce stade qu'on a une base réduite sur notre problème dual, Z du, qui est bien sûr de taille très inférieure à la taille du maillage. Et si on injecte en fait cette solution réduite dans l'égalité précédente, eh bien on obtient donc ce premier terme plus celui-ci, où en fait epsilon, c'est la différence entre les deux solutions duales, réduite et haute fidélité. Alors, là, il y a deux choix qui se posent. C'est que fait-on de ce terme qui est ici? Alors, il y a un premier choix qui peut consister à dire, eh bien, notre quantité réduite, ça va être, en fait, le produit scalaire de L avec notre pression réduite, plus ce terme-là. Auquel cas, notre estimateur d'erreur va s'écrire sous cette forme-là. Mais inversement, ça peut être directement la pression réduite injectée dans ce produit scalaire, et auquel cas, notre estimateur d'erreur serait écrit sous cette forme-là. Donc, excusez-moi, le bouton est très sensible. Donc, sur l'exemple précédent, on a fait aussi une réduction en quantité d'intérêt. Donc là, notre quantité d'intérêt, c'est en fait un flux qui est tout autour de la zone d'injection, où en fait on regarde en fait, ouais, exactement l'évolution du flux au temps final. Bon, ça pourrait être toute autre quantité, par exemple une pression moyenne dans une zone du domaine. Et là, donc, je vous présente les résultats pour ce choix de la quantité d'intérêt réduite, donc où on a ajouter ce terme supplémentaire. Et vous voyez ici la convergence de l'algorithme greedy piloté par l'estimateur a posteriori que j'ai présenté précédemment. Et là aussi, à nouveau, on voit une décroissance très rapide de l'erreur et l'évolution aussi de l'erreur exacte en parallèle, donc en phase offline et en phase online pour un nouvel échantillon. Donc, ce que l'on voit sur ce modèle, c'est que là, bien, en fait, l'application des bases réduites fonctionne très bien. On a une certification des calculs. et des calculs qui, au final, en phase online, sont complètement réalisés avec une complexité indépendante du maillage grâce à l'EIM. Alors maintenant, je vais aborder dans cette deuxième partie des écoulements diphasiques. Et là, on va voir que les choses sont un petit peu plus difficiles à réduire. Pardon. Donc là, dans ce problème-là, donc on a deux phases. Une phase bouillante pour wetting et une phase non mouillante. Donc la phase non mouillante, dans notre cas, c'est le gaz. Et on a donc deux pressions et saturation pour chacune des phases. Donc on a deux équations de conservation du volume des phases. Et puis, vous retrouvez ici la vitesse de Darcy, qui là est étendue au cas polyphasique. Donc notamment dans les gradients, vous retrouvez le gradient de la pression de phase. Et ici, un terme de mobilité qui est en fait égal au rapport entre une fonction qu'on appelle la perméabilité relative et le rapport avec la viscosité de la phase. Alors cette perméabilité relative, c'est une fonction non linéaire de la saturation. C'est une fonction croissante de S alpha. Kr alpha est une fonction croissante de S alpha. Et donc on a déjà une première non linéarité ici dans notre modèle. Et puis, en fait, dans le cas du CO2, il y en a une deuxième qui vient d'un terme qui s'appelle la pression capillaire, qui est en fait la différence entre la pression du non mouillant, donc le gaz en fait, dans notre cas, et la pression wetting. Et en fait, dans nos modèles, c'est représenté comme une fonction croissante du non-wetting. Et c'est également une fonction très non-linéaire. Donc je vais en parler un petit peu après. Donc pour clore ce système, en fait, vous avez aussi le fait que la somme des saturations doit être égale à 1. On fixe une condition initiale en saturation, des conditions de bord, comme précédemment.
Le F, là, c'est pas la sortie de tout à l'heure, si ?
Non, maintenant, c'est les saturations. Oui, c'est ça. Donc, la saturation, dans le milieu poreux, c'est la fraction de volume occupée par la phase dans le volume poreux. Le volume poreux qui est, en fait, égal au volume de la maille multiplié par phi, la porosité. Donc la pression capillaire, je voulais en parler, faire une petite parenthèse, parce que en fait, c'est pour le CO2 une propriété importante. Donc en fait, c'est même plus qu'une fonction de la saturation, c'est une fonction de la variable d'espace qui dépend du type de roche. Et comme vous le voyez ici, ce sont des fonctions très non linéaires. Donc là, par exemple, sur le cas SP11B que j'ai présenté tout à l'heure, vous avez les courbes de pression capillaire pour les différents rock types qui ont été utilisés dans ce benchmark. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ces courbes ne commencent pas au même niveau. Elles ont ce qu'on appelle des pressions d'entrée différentes qui dépendent du type de roche. Et en fait, plus une roche est peu perméable, typiquement une couche de couverture, plus elle va avoir des pressions d'entrée fortes. Ce qui fait que, en fait, si vous avez une couche de couverture et une couche plus perméable, eh bien, en fait, cette variation en espace va induire un mécanisme de barrière, parce que, en fait, si vous voulez une continuité des pressions capillaires à l'interface de changement de roche, il faut une accumulation suffisante de gaz pour pouvoir franchir la barrière. Voilà. Donc, pour le CO2, ce sont des propriétés importantes. Mais numériquement, ce sont des fonctions aussi très difficiles à utiliser dans nos calculateurs du fait de ces non-linéarités. Bon, là, pour ces expérimentations en réduction de modèles, en tout cas, nos premières expérimentations sur le cas diphasique, on les a négligées, mais ça fait partie des perspectives, des choses à prendre en compte pour le stockage. Alors, donc, je vais expliquer rapidement comment on opère la réduction de ce type de problème. Donc là, en fait, si on somme les deux équations de conservation, la somme des saturations étant égale à 1, l'écoulement étant incompressible, en fait, on obtient directement une équation elliptique sur la pression où là, le coefficient de diffusion, donc vous retrouvez la perméabilité dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi multiplié par la mobilité totale, qui là est une fonction de la saturation. D'accord ? Et cette saturation, donc là, on va conserver uniquement la saturation d'eau. Donc on réécrit la conservation de l'eau en exprimant le gradient de pression en fonction de la vitesse totale, et on fait au passage apparaître ce flux fractionnaire qui est ici. Et bien là, en fait, vous avez une équation de transport. Donc quelque part, on a un problème elliptique qui est couplé à via SW à une équation de transport. Et là, voilà, bah, c'est là que les difficultés commencent, parce que en fait, nous avons vu, enfin, dans le cadre de ce cours, que les équations de transport, bah, pour les bases réduites, avec des bases réduites linéaires, enfin, ne se réduisent pas facilement. Et ça se confirme, en fait, vous allez le voir, dans la réduction. Donc, j'ai...
Question.
Oui.
Donc là, on a trois inconnues. Il y a la vitesse, la pression, la saturation.
Oui, mais en fait...
Et c'est quoi la liaison ?
Alors, en fait... La vitesse n'est pas explicitement une inconnue, hein, c'est la vitesse de Darcy qui se déduit des gradients de pression. Donc en fait, il y a une équation, donc ce qu'on appelle notre équation en pression, c'est la première. Donc comme on a éliminé les pressions capillaires, on n'a plus qu'une seule pression. Et puis après, bah, on a deux saturations, mais en fait comme elles sont égales à 1, on n'en a plus qu'une. Et la saturation de l'eau solution de cette équation. Donc on a en fait deux inconnues, pression et saturation de l'eau, deux équations.
Parce que VT est connu.
Bah VT, en fait, VT, c'est la vitesse de Darcy. Oui, effectivement, ça s'exprime en fonction de P. Ouais.
D'accord.
De P et de S, c'est ça. Vous voyez, elle est là.
D'accord.
Enfin, VT, c'est la somme des deux,
oui.
Et c'est à la fois le gradient et une fonction non linéaire de la saturation. Oui. Voilà. Et donc, en fait, en temps, on n'utilise pas une formulation de type complètement implicite. En fait, on fait un splitting. Donc, c'est-à-dire que la pression est implicite, les saturations sont implicites. Mais, en fait, pour découpler les deux, là, on utilise un schéma, ce qu'on appelle un PIMS. Et on prend, pour évaluer la mobilité, la saturation au temps N. Donc, comme précédemment, on utilise des volumes finis centrés aux mailles. Donc, ici, en fait, un schéma simplement TPFA. Et... pour l'équation de transport, en fait, on décentre le flux fractionnaire. Et cette équation, alors là, c'est une équation qui est linéaire en la pression, mais ici, elle est non linéaire à cause du flux fractionnaire, et c'est résolu à l'aide d'une méthode de Newton. Voilà, donc là, je rappelle, je réécris différemment notre système haute fidélité, donc notre équation en pression, qui dépend ici du temps via la saturation. Et puis, vous avez ici cette seconde équation non linéaire en la saturation SN plus 1 qui dépend en fait du champ de vitesse mais qui effectivement est déduit de la saturation au pas de temps précédent et du champ de pression qui vient d'être calculé. Voilà, donc là notre but dans cette étude ça a été simplement, comme là on a une équation de transport, on sait que les bases réduites ne vont pas fonctionner, notre but c'était simplement de réduire le calcul de 5. Donc là on utilise les techniques qu'on a évoquées précédemment, hein, c'est-à-dire une linéarisation de l'opérateur elliptique via le IM, et puis une réduction des problèmes en pression, donc, puisqu'en fait c'est quand même un problème en temps à cause de la saturation, via des approches de type POD-GRIS. Alors il y a aussi un point qu'il faut préciser, une différence par rapport au problème précédent, c'est ce couplage avec l'équation de transport. Parce qu'en fait, là, on résout la pression, mais derrière, on veut pouvoir faire le transport. Donc là, je l'ai dit, on ne le réduit pas à l'échelle fine. On veut juste gagner sur la résolution de la pression. Mais il nous faut des flux conservatifs. Or, quand vous calculez la pression réduite et que vous calculez les flux volume fini associés, vous n'êtes pas certain que dans chaque maille, la somme des flux alentours est égale à zéro. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on construit la base réduite en pression, eh bien, pour les vecteurs de base obtenus, on calcule quelque part les flux volumes finis correspondants sur la grille de façon à nous construire en parallèle une base de flux, en fait. Et quand dans une phase online, eh bien, vous avez des nouvelles valeurs de pression, vous calculez les flux correspondants à ces pressions réduites, mais ils ne sont pas à divergence nulle. Donc en fait, on construit une approximation moindre carré. On reprojette en fait sur notre base de flux quelque part. Voilà. Et en fait, pour cela, on utilise une norme d'énergie discrète qui est associée au schéma en espace. Voilà. Donc là, je vais vous montrer deux. Alors, les W, vous voulez dire?
Non,
ouais,
les W1, W2.
Oui, en fait, ils sont calculés en offline, effectivement, pendant l'algorithme, alors soit la POD. En fait, ce sont exactement les flux TPFA des vecteurs de base. Voilà. Donc là, je vous présente quelques exemples. Deux paramétrisations utilisées. Alors, la première, on considère toujours la perméabilité, mais là, on a une description plus fine, c'est-à-dire qu'on a fait, on a généré une réalisation géostatistique de façon à avoir une description plus fine du milieu poreux. Donc, on connaît le variogramme, et puis on suppose ici qu'on a une incertitude sur la perméabilité dans une zone. Alors, cette zone, elle peut être relativement étendue. On n'a pas envie d'avoir pour paramètre tous les pixels de l'image. Donc pour ça, on utilise une technique qui est assez courante en history matching, qui s'appelle la technique des points pilotes. En fait, on utilise un conditionnement par crigeage pour en fait faire varier la perméabilité à un point de conditionnement. Et en fait, ces variations, ces changements de la perméabilité entre ce point pilote vont en fait se propager au niveau de la réalisation géostat en fonction des longueurs de corrélation du variogramme. Donc là, vous avez un exemple. On prend un point pilote ici et on fait varier la perméabilité. Donc là, j'ai mis 10 millidarcy, là j'ai mis 1 darcy et vous voyez en fait l'effet de la modification locale de la perméabilité. Donc là, je vous montre sur un exemple les fronts de saturation haute fidélité qu'on obtient lorsqu'on fait varier cette perméabilité dans la zone. Donc vous voyez que le front, donc là on injecte, on met une pression assez forte, on balaye avec de l'eau, et vous voyez en fait le front donc, qui suit effectivement les chemins de perméabilité. Et donc il faut imaginer que l'équation en pression va voir ça en fait, via son terme de diffusion, elle va voir ces modifications de la mobilité totale. Là, vous avez un autre exemple où cette fois, on ne joue pas avec la perméabilité, mais sur le rapport des viscosités. Et en fait, dans ce type de problème, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que lorsque vous avez des rapports de viscosité relativement proches entre les deux fluides, le front, il peut être relativement raide, mais au contraire, s'étaler dès lors que les rapports de mobilité deviennent très différents. Donc, c'est-à-dire que vous avez des fronts complètement différents. Donc là aussi, des valeurs de la mobilité totale très différentes pour la pression. Donc là, ce que je veux vous montrer, en fait, c'est pour ces deux exemples, les évolutions de construction de la base, de l'erreur, pour différents schémas de construction, hein, du glouton pur. Donc là, on a soit le point pilote, une paramétrisation de type point pilote, soit les rapports de viscosité, puis on a aussi le temps. Donc, soit on fait du glouton sur tous les paramètres, soit on fait un glouton pour les paramètres en dehors du temps, de la POD ou de la POD pure. Donc, vous voyez que sur ces deux exemples, bon, en fait, quel que soit le procédé, on a à peu près une vitesse de décroissance de l'erreur assez semblable, mais que comparé aux exemples précédents, vous voyez là on a une taille, on a arrêté à 50, vous voyez que la décroissance de l'erreur elle est relativement lente. Voilà. Donc en fait on pourrait poursuivre hein, et puis finalement obtenir la précision désirée, mais il faudrait là des tailles de base relativement importantes. Enfin, en tout cas, la méthodologie qu'on a proposée, hein, qui consiste après à utiliser nos flux réduits, enfin, cette astuce de reprojection fonctionne et permet après de reconstruire des flux prédictifs au niveau de l'équation en saturation. Voilà. Donc, ceci me conduit aux perspectives, aux conclusions de ce travail. Donc, dans une première partie, je vous ai présenté en fait comment nous avons mis en œuvre la méthodologie des bases réduites pour un écoulement compressible. En fait, on a fait un peu au-delà. Dans la thèse de Jana, on a commencé en fait la mise en œuvre pour la poromécanique. Donc cette fois, on utilise le même schéma volume fini pour l'écoulement, mais on réduit à la fois le système pression-déplacement, où là, les déplacements sont calculés, comme je l'indiquais tout à l'heure, à l'aide des éléments virtuels. Donc en fait, il y a des premiers résultats qui ont été donnés, des estimateurs proposés dans la deuxième partie de la thèse de Jana, et ces travaux sont actuellement repris dans la thèse de Baptiste. Alors, j'ai aussi montré que ces incréments de pression pouvaient avoir une influence au niveau des failles. Et au niveau des failles, on est typiquement en présence de problèmes de mécanique de contact et de frottement. Donc là, on a aussi en parallèle débuté un travail de thèse. Donc c'est la thèse de Sophia Nezehi, qui est dirigée par Virginie Herlaché, où là, on commence à regarder la réduction de ces problèmes de contact, en notamment regardant des stratégies de réduction non linéaire. Et puis, dans une deuxième partie, j'ai montré, illustré sur le cas diphasique, que la méthode des bases réduites pouvait avoir des difficultés à s'appliquer du fait du couplage avec une équation de transport. Alors, ce travail, en fait, il a été fait, c'était notre première thèse sur le sujet, il a été fait déjà il y a un certain nombre d'années. En fait, entre-temps, des méthodologies nouvelles sont apparues et je pense que il y a des choses qui pourraient être faites sur ce problème au vu des résultats qui sont parus ces dernières années. Déjà sur le problème tel que je l'ai formulé, pour essayer de réduire le transport et d'avoir déjà une décroissance plus rapide de l'erreur, mais aussi, pourquoi pas, en tenant compte de ces termes de pression capillaire dont j'ai parlé et qui sont, comme vous l'avez vu, assez importants pour modéliser le stockage du CO2. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ces perspectives et je vous remercie pour votre attention.
Merci. Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.